Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Et dans Histoire de savoir aujourd'hui, eh bien, on va parler de podcast. Ça fait la troisième fois, je crois, déjà cette année qu'on parle de podcast, mais c'est parce que ULB Podcast propose quand même pas mal de chouettes projets. Et ici, un projet de Eve Filet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes doctorante en littérature et vous êtes donc la réalisatrice du podcast Les Grands Petits Belges, disponible sur ULB Podcast. C'est bien ça?
C'est ça, oui. Et donc sur Spotify, Apple Podcast et Deezer aussi.
Voilà, donc sur toutes les plateformes de podcast. Mais bon, c'est hébergé par l'ULB quelque part, donc c'est sur base, eh bien, les grands petits Belges. Moi, je me posais vraiment la question de savoir, c'est quoi en fait? Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'on entend dans ce podcast?
Quand j'ai commencé à étudier un petit peu la littérature belge, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait pas vraiment notre propre pays, déjà. Je trouve qu'en général, quand on se dit qu'on va étudier la Belgique, ce n'est pas très sexy. En général, on n'en a pas envie d'en apprendre plus sur notre propre pays. Mais en fait, quand on se balade dans les rues de Bruxelles, par exemple, on voit toujours des noms qu'on ne connaît pas. La rue Edmond Picard, l'avenue... Même Franklin Roosevelt, c'est un petit peu plus clair peut-être, parce que ce n'est pas un Belge. Mais en général, quand on a des personnalités belges, on ne sait pas qui c'est. Et moi, j'écoutais énormément de podcasts aussi et j'écoutais un podcast français qui se dédiait justement à ces personnalités françaises qui avaient des épisodes très longs, parfois même en 3 ou 4 épisodes en fait, où on en apprenait plus sur, la comtesse de Pompidou, ce genre de choses. Et je me suis dit que c'était très dommage de ne pas avoir la même chose en Belgique. Pourquoi est-ce qu'on n'en connaîtrait pas plus sur nous, nos propres personnalités belges ? Et donc c'est ça que les grands petits Belges essayent de faire, c'est de proposer des épisodes sur une personnalité à chaque fois, une personnalité belge, pour en apprendre un petit peu plus sur notre propre patrimoine culturel.
C'est d'ailleurs l'intro de vos podcasts, hein, de se dire est-ce qu'on connaît réellement la Belgique ? J'ai plus les termes exacts. Alors en même temps, ils sont pas tous connus hein, ces gens-là. Enfin, je vais dire Maria Seth. Georges Sarton, Céline Dangote, Giunialetti, Zinaïda
Chakovskaya,
merci, Émile Camars, Narcisse Janot, voilà, on les, enfin c'est pas, enfin je veux dire c'est pas, j'essaie de trouver subitement quelqu'un de hyper connu, c'est pas Morane quoi.
C'est pas Victor Horta peut-être, ah, pour ceux qui connaissent un peu plus l'histoire belge.
Ouais, je suis plus sur Morane, d'accord.
Ouais, non, je sais pas. En effet, ouais, c'est des personnalités qui sont pas très connues, qui sont plutôt connues dans le monde scientifique ou... Oui, c'est ça, à l'université, il y en a peut-être qui vont connaître un petit peu 2-3 noms. Mais l'idée, c'était vraiment de mettre justement la lumière sur ces personnes qui n'en ont pas, sur ces personnes qui ne sont jamais étudiées, surtout même à l'international, où on n'a absolument aucun avantage à aller porter l'attention sur cette toute petite personnalité belge, qui pourtant, en général, se révèle hyper intéressante. Donc George Sarton, c'est quand même celui qui a créé l'histoire de la science de façon générale, mondiale, à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment une personnalité ultra importante pour tout le monde, internationalement. Mais son nom, il est vraiment perdu un peu dans les méandres de l'histoire, surtout en Belgique, curieusement, alors qu'aux États-Unis, par exemple, il est beaucoup plus connu.
Ah oui?
Ouais, donc parfois ça arrive comme ça. Émile Camartz aussi était beaucoup plus connu en Angleterre qu'en Belgique. Donc c'est intéressant de les remettre un peu à l'honneur chez nous.
Émile Camartz, c'est lui le Congo?
Non, Émile Camartz...
J'ai tout écouté pourtant, mais là je ne sais plus dans l'ordre à mon avis.
Émile Camartz, c'était... C'est celui qui a créé la chaire de littérature belge en Angleterre.
Oui.
Narcisse Janot, c'est celui qui a découvert le premier diamant du Congo. Ouais.
Voilà, c'est ça, j'ai confondu les deux. En tout cas, alors, ma question, évidemment, alors là, donc, vous êtes doctorante en littérature. Mmh. Vous nous faites un podcast sur les grands petits Belges,
ouais.
À tendance plutôt historique. Est-ce qu'il y a un lien entre votre domaine de recherche, parce que si vous êtes doctorante, c'est qu'il y a une recherche en cours, j'imagine. Quel est le lien entre le podcast et des grands petits Belges et cette recherche?
Alors moi, j'étudie la littérature, oui, mais plutôt l'histoire de la littérature, si je peux dire. Et j'étudie surtout les connexions entre les différents pays, entre les différentes nations, surtout au 19e siècle. C'est pourquoi il y a beaucoup de, évidemment, figures qui sont issues du 19e siècle. Donc... J'adore en effet voir la façon dont les gens arrivent à bouger et se faire connaître à l'étranger. Et j'adore voir les connexions qui se font même avant que les avions n'existent ou les réseaux sociaux n'existent. En fait, le monde était déjà hyper interconnecté. Et donc, en fait, c'est un peu ça mon doctorat. J'étudie surtout les connexions entre la Bohème, donc l'ancienne Tchéquie, et la Belgique. Et aussi l'Angleterre. C'est pourquoi on voit vraiment que ces thèmes surgissent un petit peu plus dans mes épisodes. Mais l'idée, c'est qu'en effet, ces podcasts soient une part de ma recherche qui, en général, n'intègre pas des articles, des publications ou vont peut-être même pas intégrer ma thèse. Donc, les podcasts, c'est vraiment toute cette recherche, tout ce cœur que j'ai mis dans la recherche qui ne peut pas intégrer d'autres médias scientifiques parce que soit ce n'est pas intéressant, parce que, par exemple, les petites lettres d'amour ou les petits... Les récits de guerre, etc., ça n'intéresse pas toujours la recherche scientifique, mais moi, je trouve que c'est ce qui rend le contexte humain et ce qui rend l'histoire humaine.
Donc, mais ça sert, ça nourrit votre recherche, en fait.
Ça nourrit ma recherche quand même. C'est toujours utile d'avoir la biographie de ces personnalités qui va intégrer ma thèse au bout du compte, mais ce n'est pas une partie du tout centrale. Donc, c'est vraiment très annexe. Ça ira dans mes annexes de thèse, sûrement, en fait, c'est ça.
Ah oui, carrément. Ouais. Juste les annexes. Parce que... Ben, on va pas se mentir, enfin, on connaît un peu le métier. Faire un podcast, c'est un peu chronophage quand même. Surtout quand on le fait seul.
Parce qu'apparemment,
vous le faites seul.
Oui, c'est ça, je le fais seul, en effet. Et c'est vrai que c'est très, très chronophage. Je m'y attendais pas. Moi, je pensais simplement qu'on appuyait sur enregistrer et puis c'était bon, c'était fait. Non, spoiler, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Rien que dans, évidemment, le texte, la recherche qui vient avant, évidemment. Et puis ensuite, tout ce qui est montage, etc. Mais... En fait, quand on fait une thèse, il y a énormément de travail qui va aussi dans la contextualisation historique. Et donc, comme moi, j'étudie énormément d'intervenants, énormément de médiateurs, eh bien, ça me permet quand même de savoir où ils en sont au moment X où moi, ça m'intéresse dans ma recherche. Donc, à chaque fois, moi, c'est un instant de leur vie qui m'intéresse, le moment où ils ont publié tel texte, le moment où ils ont étudié telle personne, où ils ont parlé à telle personne. Et avoir un contexte de leur vie, c'est utile, mais pas... nécessaire. Donc ça n'intégrera pas ma thèse comme une partie centrale, mais pour moi c'est incontournable de connaître évidemment tout le contexte de leur vie.
Alors aussi ce podcast est filé, il est fortement écrit. Il doit y avoir un travail d'écriture de dingue parce que en fait si on parle de la forme au niveau de la forme c'est il y a deux formes différentes hein. Mais en tout cas la majorité des épisodes me semble-t-il c'est vraiment un récit. Donc c'est un récit, donc c'est hyper écrit.
Oui, c'est ça. Ben là, c'est aussi mon côté de littéraire qui intervient. Moi, j'adore les audiobooks. Et en fait, le podcast, il est un peu à cheval entre les deux formats. J'ai envie de dire, c'est un récit que moi, j'ai écrit de façon la plus accessible possible, avec un vocabulaire tout à fait basique, un ton que j'espère être un petit peu entraînant. Et l'idée, c'est vraiment de s'immerger dans la vie de ces personnes-là et de les sortir complètement d'un contexte beaucoup trop scientifique. Donc en effet, oui, il y a un bon travail d'écriture pour que le texte, ben, il soit intéressant, il soit complet, un minimum. Il faut évidemment énormément de recherches parce que tout ça, c'est renseigné. Il y a une énorme bibliographie qui est à chaque fois renseignée sur le site. Enfin, énorme, je ne sais pas, mais je fais de mon mieux.
Il y a une bibliographie, oui.
Parce que pour ces personnes oubliées, forcément... ben, il n'y en a pas toujours la documentation. Et en général, il y a un travail d'archive aussi, parce que c'est ça que moi, j'aime mettre en avant aussi dans ce podcast. C'est que tout n'est pas simplement dû à la recherche scientifique. Il y a aussi un énorme travail dans leurs archives, dans les lettres de ces personnalités. Et souvent, j'essaye de prendre une citation ou l'autre de leurs lettres à eux pour un peu leur donner une voix à travers le podcast.
Il y a même des lectures de lettres.
Oui, il y en a quelques-unes de lectures de lettres, ouais.
En tout cas, sur les deux épisodes de Maria Seth, il y a des extraits du journal de son mari, Henri Van de Velde, et des extraits de lettres qu'elle peut envoyer aussi, quoi. Donc il y a vraiment une remise aussi, il y a quelque chose d'assez intime même, quelque part.
Oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée de se plonger dans leur vie à eux, de leur rendre leur côté humain, et de leur donner la voix, vraiment, parce que ces personnalités auxquelles personne ne s'intéresse, et d'ailleurs la grande majorité sont des femmes aussi, il y a quand même un grand aspect ici sur l'intérêt qu'on porte aux femmes, ben, en fait, je trouve ça hyper important de leur donner une voix, juste de leur permettre à elles de pouvoir prendre la parole, ou à eux d'ailleurs, parce que chez les hommes aussi, en général, j'essaye de leur donner une voix, mais donc oui, en effet, j'essaye de lire une partie de leur travail.
Alors, donc, je disais, une partie récit, il y a quelques épisodes où ce sont des interviews. Ça se passe comment, là, alors ?
C'est ça, c'est un autre format que, là, pour l'instant, je suis un peu en train de tester encore, on va dire. On a fait deux entrevues avec deux chercheuses qui sont issues du Centre de recherche Modernitas, toutes les deux. Donc là où moi aussi, j'étudie. Et c'est simplement pour offrir un autre format, en fait, au récit, simplement.
Parce qu'il y a du récit à ce moment-là, mais aussi une interview. Mais je crois que vous mettez en récit. Non, c'est la personne qui met en récit, du coup. Il y a un peu les deux.
Donc les deux épisodes qui sont en entretien, c'est vraiment nous qui allons collaborer en entretien pour pouvoir écrire un épisode sous format d'entretien. Donc on décide des questions à l'avance. Il se fait aussi que les deux personnes interviewées ne sont pas francophones d'origine. Donc c'est Elisabeth Aberquin et Martina Meko. Et donc forcément, ça aide d'avoir un script. Au-delà simplement de savoir quoi dire et quand, non, il y a aussi une vraie, un vrai travail sur le français, puisque le podcast est intégralement en français. Et du coup, l'entretien, ça permettait d'avoir autre chose une fois que simplement un récit, donc un autre format à écouter. Mais aussi pour moi, c'est énormément moins de travail du point de vue recherche. J'ai plus de travail à faire en archives, j'ai plus de travail à faire de travail de récit et de mise en texte. Là, c'est vraiment l'idée de collaborer avec quelqu'un d'autre. Ça me permet aussi de diversifier les sujets et de donner la lumière, de donner le spotlight à des personnalités qui n'en auraient pas eu sinon.
Personnalité, alors, du coup, de chercheuse ou de...
Les deux, peut-être. Les deux. Mais je pensais surtout, évidemment, aux figures historiques. Ouais. Zinaïda Chakovskaya n'intervient pas du tout dans mon travail. Yunia Leti, à la limite, potentiellement. Mais c'est des personnalités auxquelles moi, je n'aurais pas pensé. Et donc, forcément, le fait de collaborer, ça nous permet de pouvoir travailler sur d'autres figures.
Alors justement, personne dont je n'aurais pas pensé, auquel je n'aurais pas pensé... Vous avez pensé comment aux gens, au fait que... Aux gens, à ces personnalités?
Ces figures, c'est celles qui interviennent le plus dans mon travail. Donc, en général, forcément, c'est les personnes qui, moi, m'intéressent de contextualiser pour ma thèse. Donc, c'est un choix assez arbitraire. C'est aussi un choix, comme je le disais, peut-être un peu engagé pour les femmes, en tout cas, puisque j'essayais au début vraiment de donner la parité homme-femme. Et puis, à un moment, s'il y a plus de femmes, autant leur donner la parole.
C'est quand même toujours les plus oubliés de l'histoire.
Évidemment, et on s'en rend vraiment compte dans le travail d'archives. Parfois, on arrive, il n'y a juste pas de lettres. Ou tout d'un coup, toutes les lettres du mari sont extrêmement bien conservées, mais celles de la femme, pas du tout. Ou simplement, pour Céline Dangote, par exemple, on lui adressait des lettres sous Monsieur Dangote, parce qu'on n'estimait pas qu'une femme pouvait être entrepreneuse dans un magasin. Donc, en fait, on allait attribuer certaines lettres, par exemple, à son mari, alors que pas du tout, c'est elle qui en est l'autrice. Donc, en fait, il y a vraiment un travail aussi à faire de vraiment purement recherche de matériel.
Voilà, parce que donc dans ces femmes, il y a donc Maria Sett, Céline Dangote, il y a Yuna Leti,
Zinaïda Chakovskaya.
Voilà, il y en a d'autres encore.
Et là, maintenant, on est en train de travailler sur un autre podcast avec Stéphanie Peel, ou Peel, ça dépend, qui travaille sur Jeanne de Talonnet. Et ça va être un futur épisode qui sortira sûrement en avril. Donc, ouais. Mais là, je travaille sur un autre épisode aussi qui est sur un homme pour tout d'un coup avoir un homme en 2026-2027. Non, 2025-2026, pardon.
Il ne faut pas aller trop vite.
C'est ça.
Et donc voilà, donc il y a un côté arbitraire. Et comment est-ce que vous les... Parce que même dans le cadre de votre thèse, comment vous avez découvert ces gens-là? Ils ont d'office un lien avec la littérature ou pas spécialement?
Moi, ma thèse, elle s'opère sur la réception de John Ruskin, qui est un auteur anglais, en Belgique et en Bohème. Donc, moi, j'étudie la façon dont John Ruskin a été réceptionné en Belgique et en Bohème. Et ça veut dire la façon dont il a été traduit, dont il a été commenté, dont ses idées ont été réinterprétées. John Ruskin, c'est un homme qui s'intéressait à beaucoup, beaucoup de sujets. Il s'intéressait à la protection de la nature, il s'intéressait à l'anatomie, à la géologie, à l'organisation sociale. Il était très, très pour avoir un salaire correct pour les ouvriers, par exemple. Il a aussi écrit sur la situation des femmes en disant que les femmes devaient être éduquées pour servir leur mari. Donc voilà, un peu ambigu. Hein,
le début était pas mal. Et puis...
on reste sur du 19e siècle. Hein, voilà. Donc, il était pionnier, mais pour son époque. Et donc, il y a énormément de sujets qui sont très intéressants. Et moi, j'étudie la façon dont cet homme a été réceptionné. C'est-à-dire la façon dont tout d'un coup, on va prendre une phrase hors contexte, parfois, souvent même, et on va tout d'un coup hisser John Ruskin comme l'étendard d'une certaine cause. Donc, par exemple, en Bohème, il devient l'étendard du féminisme, ou c'est grâce à lui que le scoutisme en Bohème, de nouveau, s'est développé. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et moi, les personnalités que j'étudie dans le podcast, c'est en général celles qui sont responsables, justement, ce sont les médiateurs de sa pensée en Belgique. Donc, par exemple, Émile Kamartz, c'est son traducteur principal. Maria Sett, c'est celle qui a permis à Henri Van de Velde de découvrir John Ruskin, et Henri Van de Velde est devenu l'un des plus grands architectes belges grâce en fait à sa réinterprétation de John Ruskin. Et en fait, c'est grâce à sa femme. Grâce à sa femme qui, elle, est partie en Angleterre, lui a fait connaître les textes, lui a traduit même les textes dans ses lettres, on retrouve ça. Et, Et en fait, tous ces gens que moi, je choisis, en général, ont un lien avec John Ruskin, bien que je ne mette quasiment jamais son nom dans mes podcasts.
C'est génial.
C'est mon travail, je ne sais pas si c'est génial.
Non, mais... c'est génial de dire que leur point commun à tous et toutes, c'est John Ruskin et qu'en fait, on ne le cite quasi jamais, quoi.
On ne le cite pas. En général, j'essaie quand même d'y faire un petit clin d'œil. Je dis souvent, voilà, pendant son éducation, il a lu Ruskin ou William Morris, qui est son disciple. J'essaie toujours d'y faire un petit clin d'œil, mais ça arrivait, je pense, d'avoir des épisodes sans. Et du coup, aussi, pour les entretiens, ça me permet d'avoir quelque chose de tout à fait différent. Zinaïda Chakovskaya, a priori, n'a aucun lien avec...
Ok, là, quand vous interviewez d'autres personnes, en fait, là, il n'y a pas de lien.
Je n'ai pas un screening process qui me dit, tiens, est-ce que ta personnalité a un lien avec John Ruskin, sinon pas. C'est pour ça aussi que le podcast s'appelle bien Les Grands Petits Belges et pas Les Grands Petits Ruskiniens ou quelque chose comme ça.
Que j'ai des défauts, mes faux airs et des fossiles. Je suis la femme fossile. Je me conjugue au plus que parfum et je vis.
Et donc justement, Maria Seth, moi je trouve que c'était... voilà, j'ai été émue en l'écoutant d'ailleurs.
Bien sûr.
C'est un destin de dingue cette femme. Maria Seth, d'ailleurs, vous en faites deux parties, deux épisodes.
En fait, c'était aussi parce qu'il y a énormément du podcast qui est dédié à son mari, simplement parce qu'elle vivait à travers son couple. Donc finalement, c'était un peu un podcast double sur le couple Van de Velde plutôt que sur elle, même si le prisme, le choix que j'avais fait, c'était elle. Mais en fait, comme la plupart de sa vie n'est trouvable que vis-à-vis des lettres qu'elle envoie à son mari ou des mémoires de son mari, ben on a en fait forcément ce problème de devoir passer par son mari afin de raconter sa vie à elle. Et à partir du moment où, spoiler alert, il choisit d'aller voir une autre femme, etc., bien, on a tout d'un coup beaucoup moins d'informations sur sa vie à elle, parce qu'elle est juste une mère de 6 enfants, il me semble, en train d'essayer de joindre les deux bouts, de peiner sous la guerre, etc., à trouver un morceau de charbon pour aller chauffer la maison de ses enfants. Donc, on a vraiment ce destin tragique, mais qui ne peut être lu encore aujourd'hui, et c'est d'ailleurs très tragique, que via son mari.
D'ailleurs, on a l'impression qu'en fait, les vies, elles étaient vachement plus tragiques avant que maintenant, hein.
Ouais, sûrement que si on choisissait des personnalités actuelles, on choisirait aussi des destins peut-être plus tragiques.
Ah, je sais pas.
Mais finalement, Céline Dangote, par exemple, a très bien vécu.
Céline Dangote, donc si on en revient, donc elle, au départ, c'est du côté de Gand.
Oui, c'est ça, elle vient de Gand.
Et elle tient un magasin. Mm-hmm. Enfin, elle hérite du magasin de son père, ou je ne sais plus très bien. De sa mère. Oh là là, de sa mère. Et en fait, elle finit par éduquer tout un village, en faisant très court. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous êtes arrivé à elle? Et un peu, c'est quoi son histoire? Et elle, c'est quoi son lien, du coup, avec John Ruskin, qui n'était pas du tout le but de... Mais du coup, je suis très très curieuse par rapport à ça.
Pas de souci. Céline Dangote, elle, c'est elle qui m'a donné envie de faire le podcast.
C'est le premier épisode.
C'est le tout premier épisode, en effet. Et elle, donc elle, son lien avec Jane Ruskin était beaucoup plus
Ténu,
ouais, c'est ça. Donc ça a commencé simplement parce que au début, je savais pas très bien comment m'y prendre. Je savais que je voulais mettre pour ma recherche, je veux dire, je savais pas très bien par quel bout prendre ma propre recherche, et donc j'avais été un peu voir des chercheurs, consulter des chercheurs ici, et une chercheuse que j'adore, Vanessa Gémis, qui a beaucoup travaillé sur les femmes belges, m'a dit, mais Céline Dangote, elle n'est pas très connue, mais je sais qu'elle avait des tendances anglophiles, donc il y a moyen qu'il y ait un lien. Et il y a déjà des recherches qui ont été faites sur Céline Dangote, hein, donc c'est pas une, tout à fait une inconnue, beaucoup de recherches en néerlandais aussi, par un chercheur flamand qui s'appelle Christopher Bruggen. Et ces recherches existaient donc j'ai tout lu, tout ce qui existait, puis je me suis dit, mais c'est dingue, personne ne parle jamais de Ruskin, ou peut-être qu'il y avait une toute petite mention, mais plutôt dans ce qui concernait Céline dans un groupe, dans un cercle littéraire très
précis.
Oui,
parce qu'elle a créé d'ailleurs.
Elle a créé plusieurs centres, plusieurs cercles littéraires, en effet. Et du coup, moi, je me suis intéressée à elle, je suis allée voir ses archives, aux archives de la ville de Bruxelles, et directement, le premier truc que j'ai trouvé, c'était un manuel sur, qui possédait le nom de Ruskin dedans. Donc j'étais super emballée. Et en effet, en lisant ses mémoires à elle, qu'elle a aussi bien diligemment notées et dont elle a pris soin, j'ai pu trouver des mentions comme quoi elle avait lu Ruskin et elle s'en était inspirée pour avoir son magasin d'art nouveau. Parce que oui, elle, son destin, c'était ça. C'était donc une femme qui avait hérité du magasin de sa mère et qui finalement avait réussi à composer un magasin de mobilier, mais aussi, en effet, à avoir un petit journal, à éduquer tout un village, parce qu'elle s'est rendue compte que les enfants du village d'à côté ne savaient pas chanter.
C'était ça, ils ne savaient pas chanter.
Ils ne savaient pas chanter parce qu'ils ne savaient pas lire les musiques, donc ils ne connaissaient pas les paroles. Et elle voulait leur apprendre à chanter. Pour apprendre à chanter, il fallait leur apprendre à lire. Et du coup, elle avait été dans un champ d'herbe, pas un champ à chanter, évidemment.
Oui,
un champ. un champ PS.
Un champ agricole, quoi.
Leur apprendre les bases de la vie, donc les mathématiques, la littérature, à lire et à écrire. Et puis ensuite, elle a dû se faire arrêter dans cette entreprise par l'église, parce que l'école était mixte, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Et donc, en effet, l'église y a mis un arrêt assez brutal. Et donc, elle a continué son entreprise d'éducation par un petit journal, les Aselsblad, en néerlandais, évidemment, parce que pas beaucoup de choses étaient publiées en langue du peuple en néerlandais.
Ah oui, aussi, d'ailleurs.
Donc, c'était un choix très pertinent et très engagé aussi d'écrire en néerlandais à ce moment-là.
Il y a donc une fameuse mise en contexte, en fait, de vos personnages.
Oui, à chaque fois dans le podcast, j'essaye de mettre un grand contexte historique. Enfin, pas un grand contexte historique. Hein. Chaque épisode fait 20 minutes. Donc, moi, j'essaie à chaque fois de contextualiser au maximum l'époque en fonction de ce qui est intéressant pour le podcast. Donc, par exemple, pour Céline Dangote, c'était sûrement la condition de la femme. Je ne sais plus exactement si on a touché au bilinguisme à cette époque. Mais donc à chaque fois, il y a une espèce de mise en contexte, oui, et j'essaye à chaque fois de rendre le podcast un peu attrayant en mettant du bruitage, en essayant de rendre le récit un maximum immersif et pas juste écouter ma bête voix qui parle sans arrêt.
Et donc dans ces remises en contexte aussi, bah quelque part on repasse l'histoire de la Belgique, en tout cas du 19e siècle, parce que c'est ça votre temps de recherche en fait, le temps du podcast c'est 19e début 20e.
Ouais, c'est ça, le tournant du siècle en général c'est entre 1880 et 1920-30, ça dépend un peu de la longueur de la vie de ces personnes, c'est évidemment ça. Moi en général le point qui m'intéresse fait partie de ce cadre temporel-là, mais en général, ça dérape en fonction, évidemment, de la vie de ses personnalités.
Oui, voilà, parce que je reviens à Marie-Estelle, mais je crois que c'est celui qui m'a vraiment, vraiment le plus marqué. On va jusqu'à la Première Guerre mondiale facilement.
Même la Seconde, hein, il me semble.
Même la Seconde, mais je n'osais pas le dire.
Aussi.
N'étant pas super sûre.
C'était
du
en février de l'année passée, mais je pense que oui. Ouais.
Mais oui, j'imagine aussi que pour vous, c'est plein de savoir accumulé. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais entre autres, il y a Narcisse Janot, là, il y a ce côté aussi par rapport à la colonisation, et là on est même à un moment presque de découverte en fait, on est vraiment 19e siècle mais pas on est on est au je ne vais pas dire au début, si, on est quasi au début de la colonisation, en fait, du Congo belge.
Donc, le Congo belge, c'est une histoire un peu particulière, hein, parce qu'il a d'abord été un cadeau personnel de Léopold II.
Propriété personnelle, oui.
C'est ça.
Il se l'est acheté, oui. C'est un beau cadeau, mais il se l'est acheté à lui-même.
C'est ça. Mais déjà, c'était un choix plus particulier à faire, en ayant un podcast qui s'appelle « Les grands petits belges », d'amener une figure coloniale. Est-ce qu'on met à l'honneur le colonialisme, tout ça. Donc, on avait pris le soin d'écrire un disclaimer quand même pour bien mettre les points sur les i, en disant que nous, ce qui nous intéressait, c'était principalement l'histoire de la Belgique et non pas le débat politique qui vient avec.
Mais ça fait partie de l'histoire de la Belgique, malheureusement. Mais je veux dire, ça fait partie de l'histoire de la Belgique. Et ce qui est super intéressant ici dans l'histoire de Narcisse Janot, c'est que le gars, quand même, il découvre le premier diamant.
Et il ne le sait pas.
Et c'est un autre qui découvre, mais 2 ans après, que ah bah ouais, bah finalement c'était un diamant. C'est hallucinant cette histoire, en fait. C'est plus dans ce côté, il y a un côté hallucinant à cette histoire, enfin un côté un peu pauvre gars, quoi.
Exactement, et il s'est fait complètement lâcher par tout le monde, alors que c'est lui qui l'a découvert. Mais ça, c'est pas ma recherche, donc lui n'a pas de lien avec Ruskin. Ça, c'est la recherche de Jan van der A, donc, qui est un chercheur de la VUB. Et ça, en effet, quand il m'a raconté l'histoire, j'ai trouvé ça juste absolument dingue. Et on a collaboré. Donc, ça, c'est sa voix qu'on entend à un moment, quand il prend la parole à la place de l'un des Américains, je pense, qui est sur place. Et donc, le but, en effet, c'était de pouvoir mettre à l'honneur cette figure-là, Narcisse Janot, qui n'est pas tout blanc, tout rose non plus, hein, évidemment, mais qui a été un grand oublié de l'histoire, et lui, complètement volontairement. Parce que le fait qu'il n'ait pas été payé, le fait qu'il n'ait pas été reconnu pour sa découverte, c'était complètement volontaire de la part de ses employeurs et de la Belgique à plus grande échelle.
Oui, parce que du coup, c'est à partir de là que finalement, au Katanga, il y a cette exploitation de diamants. Et en fait, lui, il ne va rien toucher. Enfin, c'est 30 000 francs, je crois.
Oui, ce qui était à l'époque quand même un
c'est
petit
pas
peu,
mal,
hein,
mais
c'est pas proportionnel.
C'est pas 30 000 euros, quoi. On n'est vraiment pas là, on est vraiment dans 40 ans.
Et c'est pas du tout proportionnel à la découverte que ça a créée, parce qu'ensuite, toute la région a été minifiée. Il y a une grande implantation minière, sur la région. Et puis en plus, ce modèle-là a été exporté après en Angola portugaise, etc. Donc c'est vraiment grâce à lui que toute la région, au-delà même du Congo, a pu être exploitée pour ses diamants, quoi. Donc il a changé la face du monde, on peut dire même du monde, parce qu'ensuite, Anvers s'est développé comme port de diamants. Donc oui, ça a vraiment changé la face du monde et sûrement de la Belgique.
Donc, on parle de Belge, Zinaïda Chakovskaya. Du coup, on se demande un peu, parce qu'on ne va pas se mentir, pour l'époque, ça ne fait pas hyper, hyper belge, en fait, comme nom-prénom.
Non, bien sûr, mais Zinaïda Chakovskaya est une Belge par mariage. Et donc, oui, elle est devenue belge grâce à son mariage. Je viens juste de me répéter. Donc oui, en effet, elle est russe, elle est née en Russie, et avec la guerre et les révolutions, etc., eh bien, ces grandes élites russes, il fallait bien qu'elles aillent quelque part.
Oui, parce que c'est une princesse russe, en fait.
C'est une princesse russe. Alors, le titre princesse en Russie à l'époque, ça ne veut pas dire la même chose que pour nous actuellement. Donc, ce n'était pas la fille du tsar.
Non.
C'était une... un peu les grands exploiteurs terriens qu'on dit chez nous plutôt. Donc elle avait un titre, elle avait un titre de noblesse. Après, la précision de ce titre n'est pas super claire. On ne sait pas exactement pourquoi elle était appelée princesse. Mais en tout cas, elle ne venait pas de nulle part. Elle avait une belle éducation, elle avait un beau futur devant elle. Et puis, il y a eu la guerre, la révolte, et il a fallu partir. Puisqu'à l'époque, donc, c'était le début du socialisme, du communisme, et donc il fallait que les élites puissent partir et rejoindre des endroits beaucoup plus sécurisés.
Évidemment, dans les royaumes européens, on leur ouvre grand les bras, parce que...
Et encore, parce qu'elle a dû d'abord passer, il me semble, par Constantinople, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle a quand même eu un chemin qui n'était pas facile, avec son frère qui a dû faire du porte-à-porte quand même, pour avoir un peu de quoi subvenir à leurs besoins, parce qu'ils sont d'abord passés par Paris, avant de pouvoir finalement aller à Bruxelles. Et c'est elle-même qui a dû payer son propre... Enfin, qui a dû trouver une manière d'aller de Constantinople à Paris, parce que sa mère était partie rejoindre son frère, qui était en train de faire du porte-à-porte pour trouver quoi que ce soit pour vivre à Paris, laissant elle et sa sœur toutes seules sur place avec la Croix-Rouge. Et elle a dû forger la signature de ses parents sur un... Enfin, de sa mère, sur un papier, pour demander aux Américains de la Croix-Rouge de lui payer son propre chemin en bateau vers, euh, vers la France. Donc ça, c'est une histoire complètement folle petite de 14 ans qui se débrouille comme elle peut pour aller rejoindre sa mère en France, quoi.
Oui, c'est hallucinant quand même. Et ce qu'on voit beaucoup à cette époque-là aussi, c'est que... alors, est-ce que c'est lié peut-être à votre sujet de thèse ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a l'impression que tous ces gens que vous citez, dont vous racontez l'histoire, ont une mobilité assez incroyable en Europe. En fait, ils ne restent pas en Belgique. Maria Sette, j'ai arrêté de parler d'elle, mais elle va en Angleterre, elle va en Allemagne, elle finit en Hollande, je crois. Enfin, je ne suis même plus sûre, oui. Mais enfin, voilà, elle va un peu partout. Évidemment, ça, Narcisse Jeannot, il va au Congo. Zinaïda Chakovskaya, on le voit, donc elle vient de Russie, elle traverse quasi l'Europe en long, en large et en travers avant d'aboutir ici. Yuna Leti aussi, il me semble que...
Yuna Leti, à Prague, ouais, c'est ça, parce qu'elle a eu, un petit hic dans son mariage et une grossesse adultère qui fait que forcément partir à Prague a dû être le smart move à faire à l'époque pour éviter un peu la polémique. Donc oui, elle est partie à Prague et elle a fait carrière là-bas.
Voilà, elle fait carrière là-bas en plus. Son frère qui fait aussi carrière, je ne sais pas où, mais pas en Belgique. Si.
Lui, c'était en Belgique. Son frère, c'est en Belgique. Mais c'est en étudiant l'Empire byzantin, le byzantisme.
Donc, et son mari, il n'est pas tchèque non plus, en fait.
Il est français.
Il est français, donc on a l'impression d'une énorme mobilité. Est-ce que c'est dû... est-ce que c'est parce que vous avez choisi finalement des gens qui étaient fort mobiles à l'époque, ou est-ce que c'était quelque chose de quand même assez courant au 19e siècle de gambader partout en Europe ?
Alors déjà, forcément, c'est lié à ma thèse. Le fait que moi, j'étudie les transferts entre nations, c'est évidemment un catalyseur de ce genre de profil. Donc moi, j'étudie en effet les gens qui, en général, ont tendance à parler anglais. Donc forcément, ça veut dire qu'ils ont un peu voyagé, ou en tout cas qu'ils ont une éducation suffisante que pour se permettre de voyager. Parce que ces personnalités-là, celles dont il nous reste des lettres, celles qui ont pu accomplir des choses, ils ne viennent pas de n'importe où. Ça veut dire qu'ils ont été éduqués, ça veut dire qu'ils ont une famille qui leur a permis d'accomplir ce genre de choses, ça veut dire qu'ils ont un certain patrimoine financier. Ce sont en général des bourgeois, des industriels, des riches, ce qui permet à tous de voyager, que ce soit pour le plaisir ou pour le travail, pour leurs ambitions personnelles, etc. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir qu'en Belgique, on voyage beaucoup, et même des petits Belges. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant, c'est que notre pays, à l'époque, il était un peu enserré par la grande France, la grande Allemagne. Au nord, on avait l'Angleterre, on avait ces grands empires, ces grandes cultures. Et la Belgique, les petits Belges, ils ne savent pas très bien sous quelle étiquette s'identifier. On est un peu personne. Et donc, pour se faire un nom, il était hyper courant d'aller à l'étranger, rencontrer des personnalités très, très importantes à droite, à gauche, pour se créer une légitimité en tant que Belge. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de livres qui sont publiés par des Belges, mais à Paris, par exemple.
Ok, voilà. Et du coup, oui, ils publient de là où ils sont, en fait.
C'est ça. Je me sens toujours un peu coupable de donner tellement de visibilité à des gens qui, souvent, ne font pas carrière en Belgique. Mais bon, c'était aussi la réalité de l'époque.
Ouais.
Même si ça existe, évidemment, il y en a plein ici qui ont fait carrière aussi en Belgique, j'en doute pas. Mais en tout cas, oui, mes choix personnels aussi font que forcément, ce sont ce genre de profils qui ressortent le plus.
Mais voilà, mais la mobilité était, somme toute, apparemment quand même assez régulière à l'époque.
C'est ça, même sans Ryanair, sans Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, non, on arrivait quand même à voyager. Ça
peut-être prenait plus qu'avant, quoi. Ouais, mais c'est ça, ça prenait toute une vie, quoi, finalement.
Ça prenait longtemps, et il fallait s'y préparer, ça prenait énormément d'argent. Après, ça se passait beaucoup sur les contacts, donc le fait d'avoir des personnes qui ont des contacts internationaux aussi, ça permet d'avoir plus de lettres, donc on a plus de recherches à faire. Donc c'est aussi un intérêt plus particulier. Quand on vit en Belgique, on se rencontrait, on a moins de lettres.
Oui.
Donc forcément, pour un besoin de recherche, c'est très intéressant d'avoir des personnalités internationales.
Évidemment. Alors pour l'avenir de ce podcast, donc je suppose que là, vous n'avez pas fini, là vous êtes à la saison 2.
Ouais.
Ouais.
C'est ça, j'ai commencé l'année passée. C'est
donc
ça.
En 24-25.
En 24-25, enfin en 25 en fait, ouais. Ça fait un an maintenant que le podcast existe.
Ah oui, ça fait quand même pas mal d'épisodes sur un an, ça.
Oui, c'est ça. Donc là, on va sortir le 9e, il me semble, si je ne me trompe pas. Et Et oui, c'est pas ultra régulier, c'est censé être un par mois, mais les circonstances, soit personnelles, soit du service com ou n'importe quoi, de la recherche en général, font que parfois c'est pas possible de maintenir ce rythme.
Est-ce que c'est utile quand on a...
Ben justement.
Au niveau du podcast, enfin c'est pas...
Je sais pas si peut-être que plus de régularité permettrait à une audience d'attendre potentiellement l'épisode suivant, mais je ne pense pas que les gens trépignent vraiment d'impatience. À l'idée d'écouter le prochain épisode. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit tellement important d'avoir une fréquence très régulière. Mais l'idée, c'est de continuer jusqu'à la fin de ma thèse, j'imagine. Là, je suis en troisième année, donc il me reste un an et demi. et après, normalement, c'est l'ULB Podcast qui m'héberge. Donc, normalement, ce sera fini, sauf si quelqu'un veut reprendre l'enseigne et continuer les grands petits belges, mais sans moi.
C'est possible, quoi. Oui, mais là, stop.
Ce serait
possible. Il y a encore plein d'idées.
Moi, j'ai encore des idées de personnalité, oui. Et puis, il y a d'autres personnes qui m'approchent en me disant « Ah, mais moi, j'ai cette personne-là présentée. » Donc, je disais que là, on est en train de prévoir ça sur Jeanne de Talonnet. Il y a aussi peut-être Charles Potvin qui va être présenté en juin. Enfin, on a des idées comme ça qui bouillonnent un peu. C'est beaucoup plus chronophage quand c'est moi-même qui dois proposer mon propre sujet, forcément. Parce que rien que dans la recherche et dans la préparation moi-même du matériel, ça me prend énormément de temps. Moi, j'ai très hâte de voir ce que devient ce podcast. Puis surtout que c'est chouette de voir des bons retours actuellement, quoi. On a eu le prix de la diffusion scientifique de l'ULB aussi, qui a été accordé au podcast en décembre.
C'est bien ça.
Donc oui, c'est prometteur. Ça veut dire que les gens aiment bien. Parce que petite entreprise que moi j'ai commencé toute seule, un peu dans mon coin, en me disant personne m'écoute et tant pis. Finalement, ça sert aux autres. Donc c'est toujours chouette.
Et donc, pourquoi être arrivé, pourquoi le podcast, qu'est-ce que ça apporte de plus dans la recherche ou pas, hein?
Moi, je suis une énorme fan de vulgarisation. Je déteste ce terme parce que ça fait vraiment comme si on était l'élite et qu'on parlait à la vulgaire masse. Mais je veux dire, la simplification du contenu et la capacité d'expliquer des choses qui ne sont pas nécessairement faciles de manière plus simplifiée, je trouve que c'est vraiment... le plus important est ce qui doit être mis en avant dans la recherche scientifique. Et le podcast, ça permet de faire ça, évidemment. C'est une énorme plateforme de diffusion des savoirs. Mais moi, ça me permettait aussi de pouvoir utiliser ces recherches qui sont là. Je les fais, ces recherches de contextualisation, puisque pour moi, pour mon travail de thèse, ce n'est qu'un travail de contextualisation. Ça me permet de l'utiliser et d'avoir une plateforme qui soit beaucoup moins réglementée et régularisée et lente qu'une publication académique. Mm-hmm. Un article académique, c'est extrêmement sec, cadré.
Cadenassé, c'est très... Ouais.
C'est vraiment une forme qui n'est pas très facilement digérable. Et c'est extrêmement lent aussi. Donc un travail que j'aurais fait il y a 2 ans serait publié plus ou moins maintenant. Or là, il y a vraiment une idée d'immédiateté. Je lis quelque chose, je trouve une personnalité importante... et intéressante, en quelques mois, je peux, même pas quelques mois, ça dépend un peu du matériel.
Oui, c'est ça, ça peut être en quelques semaines, finalement.
Oui, c'est ça, en X temps, je peux produire, a priori, un podcast dessus. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'un produit fini tôt, qui est vraiment attrayante, surtout en doctorat, où on ne se voit pas avancer pendant tellement longtemps.
Oui, c'est ça, en fait, ça aide à avoir l'avancement, mais ça permet aussi de l'amener au grand public, en fait, aussi. C'est un peu dépoussiérer ouais. la recherche qui paraît toujours très, très élitiste et très...
C'est ça, moi, si je pouvais présenter ma thèse sous forme de pièce de théâtre, je le ferais, je pense. L'idée, c'est vraiment d'essayer de produire quelque chose qui soit accessible à tout le monde, compréhensible par tout le monde. Et en vrai, oui, il y a des gens qui ne font pas du tout de la littérature, qui écoutent aussi ces podcasts, alors que oui, ça parle de symbolisme ou de, je ne sais pas, des grands termes. Symbolisme, ce n'est peut-être pas un grand terme, mais des ismes et des hic à n'en plus finir. L'idée, c'est justement de savoir les présenter de la manière la plus simple possible, sans pour autant débilifier le récit. C'est toujours la vie de personne, donc il y a toujours ce côté un peu respectueux d'humains, de vraies familles, de vraies personnes qui ont existé. Et évidemment, le podcast aussi, ça, c'était le côté vocal, le côté de leur donner une voix au sens même très littéral du terme.
Ouais.
Donc j'aurais aimé aussi, pourquoi pas, faire quelque chose de visuel, mais ça aurait été tout un autre défi. Et donc là, le podcast s'est bien présenté, quoi. C'était un peu... l'idée qui est venue à ce moment-là, et ça a été facile à mettre en place, donc voilà.
Et il n'y a pas encore beaucoup de règles, en fait, autour du podcast, hein. C'est quelque chose d'assez libre et, en fait, d'assez simple d'accès, en fait. Bon, je diminue pas votre travail, hein, pas du tout, mais c'est, au niveau de l'accès, c'est quand même beaucoup plus simple de monter un podcast que de monter une vidéo, je pense.
Ouais, ça sûrement.
De 17 minutes, de 20 minutes, hein.
Ouais, ça sûrement.
Et ce qui est aussi, c'est que le podcast, il est, enfin, au niveau en tant qu'auditoriste, eh ben, on le prend partout. Enfin, il y a une facilité d'accès aussi, tant pour le réalisateur, la réalisatrice, que pour l'auditoriste.
Oui, c'est ça. Moi, ce que je détestais en écoutant des podcasts, c'était le fait qu'ils étaient si longs. Souvent, il y a des podcasts de 40 minutes et en fait, c'est même une série de 3 épisodes pour une seule personnalité. Et en fait, il n'y a aucun trajet que je fais qui fait nécessairement 1h30 tous les jours. Moi, je vais à l'université en 20 minutes à pied. Ben voilà, je peux écouter une de mes personnalités sur le trajet.
Voilà, donc un podcast, c'est 20 minutes.
Après, mes entretiens en font 30, je pense, en général. Mais en effet, moi, j'aime bien les formats courts. Je trouve qu'en général, on raconte autant en 20 qu'en 30. Et autant condensé au maximum. Tant que c'est intéressant, tant que ça rend justice au contenu, moi, je suis contente.
Voilà, alors effilée, donc vous êtes la réalisatrice des Grands Petits Belges, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais c'est donc ULB, si on tape ULB Podcast, en fait on tombe dessus assez rapidement, et donc sur toutes les plateformes, les bonnes plateformes de podcast. Merci en tout cas d'être venue nous rencontrer pour parler de ce podcast, et on mettra de toute façon le lien sur l'article sur le site internet de Radio Campus, radiocampus.be, là où vous pouvez retrouver également le podcast de cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.